Nous avons vu comment le premier combat est celui de la confiance, qui est une disposition première dans notre cœur. On peut dire qu'il y a une confiance naturelle dans le cœur de l'homme, à la différence des animaux. Mais la vie spirituelle, ce n'est pas simplement une question de confiance, mais c'est aussi une question d'élan, de désir, de dynamisme, de force. Et c'est ce que nous allons voir avec l'espérance, puisque après avoir donc traité de la foi, je vais traiter de l'espérance. Comment peut-on comprendre cette vertu théologale? Déjà, en prenant conscience que notre cœur est le lieu premier où se vérifie notre prédestination, c'est-à-dire le fait que nous ayons été créés pour Dieu. Rappelez-vous ce que dit saint Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en toi. Donc le catéchisme dit qu'il y a une soif de Dieu qui est inscrite dans le cœur de l'homme. Et ça rejoint une affirmation de Jean-Paul II disant que tout homme tend confusément vers le royaume. Mais il faut comprendre que cette tension naturelle vers le royaume, c'est-à-dire vers une réalité surnaturelle, elle n'est pas encore l'espérance proprement parler. Nous pouvons le comprendre du fait que cette tension, elle est inscrite en nous, malgré nous. Et la meilleure manière de le comprendre, c'est de se rappeler que la souffrance des damnés, en bonne théologie, la souffrance des damnés, c'est la privation de la vision de Dieu. Et donc, ces personnes qui haïssent Dieu, du fait qu'elles restent prédestinées à Dieu, du fait qu'il reste cette soif inscrite dans leur cœur, elles souffrent terriblement parce que dans leur haine de Dieu, elles se retrouvent en contradiction avec cette soif inscrite en elle malgré elle. L'espérance, elle est plus qu'une soif naturelle. L'espérance, elle est un désir surnaturel que l'Esprit-Saint éveille en nous et qui est inséparable de la foi. L'espérance est un don de Dieu, c'est une action de l'Esprit Saint en nous, c'est quelque chose sur lequel nous n'avons pas une prise directe mais que nous pouvons favoriser, qui est lié à la foi au sens où c'est la foi qui ouvre notre esprit à la réalité du royaume de Dieu, qui nous donne de le pressentir cette réalité. Petite Thérèse utilise ce terme de pressentiment quand elle, avant de rentrer au Carmel, elle avait le pressentiment du ciel, le pressentiment qu'il y avait une autre vie. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un homme divorcé qui me disait, je sais que l'amour pur existe, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas encore trouvé. Dire je sais que l'amour pur existe dans son cœur, ce n'était pas simplement un savoir, c'était, j'ai senti un pressentiment. C'était une véritable espérance qui l'habitait. Et je dis donc que dans l'espérance, il y a comme une perception, et à partir de cette perception, un désir, je dirais, conscient, aimant, de ce qui nous est donné d'entreapercevoir. Je dis bien seulement entre-apercevoir parce que au niveau de notre intelligence, de notre intelligence rationnelle, disons, nous ne pouvons pas savoir ce que c'est que la vie éternelle, nous ne pouvons pas savoir ce que c'est que le royaume de Dieu, ce sont des réalités qui ne se laissent pas saisir. Ce sont des réalités dans lesquelles on pénètre malgré tout. C'est proprement pour ça la vie mystique. C'est quand cette réalité du royaume de Dieu est réellement expérimentée. Et ce qui peut nous faire le plus pressentir cette réalité du royaume de Dieu, c'est le contact avec des mystiques. C'est le contact avec des personnes qui le vivent. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a le plus aidé à réveiller en moi le désir de la vie éternelle, c'est de rencontrer des personnes comme le Père Thomas Philippe. Et je pense à une autre personne aussi qui sont rentrées dans cette vie éternelle. Saint Thérèse d'Avila disait que la sainteté, c'était le commencement du ciel. Fait commencer à vivre la vie du ciel sur terre. Et donc, par là même, il y a une lumière qui est donnée et qui peut réveiller en nous l'espérance. Je pensais à une expression qu'on utilise souvent, semeur d'espérance. Je crois que les plus grands semeurs d'espérance, ben, ce sont ceux qui vivent déjà donc de ces réalités cachées et qui les laissent voir aux autres parce qu'ils les vivent. En réalité, le royaume de Dieu s'est rendu visible d'abord à nous, s'est rendu palpable en la personne du Christ. Et donc, quand saint Paul dit que le Christ est notre espérance, je pense qu'il faut le comprendre aussi dans ce sens-là, au sens où dans le Christ, nous contemplons la réalité du royaume de Dieu. Parce qu'en sa personne, comme dit saint Jean, la vie s'est manifestée. Cette vie éternelle, cette vie d'amour filial pour laquelle nous avons été créés. Et je repense à ce passage dans saint Jean, la première rencontre de Jésus avec ses premiers disciples, la première parole de Jésus dans l'évangile de saint Jean. C'est une question, que cherchez-vous ? Et vous connaissez la réponse des disciples, « Rabbi », ce qui veut dire « maître », « où demeures-tu ? » Que cherchez-vous ? Nous cherchons à te connaître. Cherchons à connaître ce qui est ta demeure, en définitive la demeure du Christ, c'est le sein du Père, le Christ demeure dans le sein du Père. Donc, en réalité, nous cherchons à connaître ta vie intime, parce qu'il y a une lumière, il y a une beauté dans ton regard, dans ton visage, qui nous attire et qui réveille en nous l'espérance. Donc, je vous disais que les saints étaient des semeurs d'espérance, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont des reflets du Christ. Parce que Jésus, à travers eux, continue à attirer les âmes vers le royaume de Dieu. En même temps, le fait, vous voyez, de pouvoir percevoir cette beauté et de se laisser toucher par elle, c'est proprement la foi qui permet cette ouverture de l'esprit, cette ouverture du cœur, qui fait qu'à partir de cette ouverture, il y a un désir qui peut s'éveiller. Puisse Dieu illuminer les yeux de votre cœur, dit saint Paul aux Éphésiens, pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel. Quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous les croyants, selon la vigueur de sa force qu'il a déployée en la personne du Christ. Voyez, l'illumination des yeux de notre cœur pour nous faire voir l'espérance à laquelle nous sommes appelés, elle, en définitive, elle nous renvoie à la personne du Christ, en laquelle resplendit donc ce à quoi nous sommes prédestinés, c'est-à-dire cette vie d'amour filial avec le Père. Benoît XVI insiste beaucoup pour dire que la vie chrétienne, c'est d'abord une rencontre du Christ. Et je pense qu'actuellement, ce qui manque le plus, c'est précisément cette expérience du Christ qui peut seule susciter une véritable espérance. Sinon, le royaume de Dieu reste quelque chose d'abstrait qui ne touche pas vraiment notre cœur et donc qui n'exerce pas une véritable attraction. Rappelez-vous ce que dit saint Augustin, cité par Benoît XVI. L'homme se meut spontanément et non sous la contrainte quand il se trouve en relation avec ce qui l'attire et ce qui suscite en lui du désir. Ce désir, c'est l'espérance. Pour que nous puissions nous mouvoir spontanément et non sous la contrainte, c'est-à-dire vivre d'une vie d'amour et non pas simplement d'une vie de devoir, il faut que nous soyons en relation avec ce qui attire notre cœur, c'est-à-dire que nous ayons un contact avec cette réalité du royaume de Dieu, puissions chercher vraiment le royaume de Dieu du fond du cœur, et donc qu'il y ait ce désir en nous, et que ce désir soit le moteur de notre vie, le moteur secret de notre vie. L'espérance, c'est la vertu dynamique. Si on se sent spirituellement fatigué, si on sent de lassitude en nous, il faut chercher du côté de l'espérance le chemin de la guérison de notre cœur. Trouver les moyens de réveiller, de ranimer cette espérance en nous. La parabole du trésor caché peut nous aider à comprendre cette vertu dynamique de l'espérance, au sens où dans cette parabole on voit bien que l'homme fait une première expérience du royaume de Dieu, mais il ne peut pas encore y entrer, il n'est pas encore prêt pour y rentrer, mais du fait de cette expérience, il y a une espérance qui naît en lui, et nous voyons la force de cette espérance dans le fait que cet homme est capable de vendre tous ses biens joyeusement. Il s'en alla ravi de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. On pourrait mettre en parallèle un passage de l'Épître aux Hébreux qui dit bien aussi cette force de l'espérance qui nous permet de nous détacher de tout. Écoutez Hébreux 10, 34. Vous avez pris part aux souffrances des prisonniers, vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens, sachant que vous étiez en possession d'une richesse meilleure et stable. Ne perdez pas votre assurance, elle a une grande et juste récompense. À chaque fois, il y a le terme la joie qui apparaît, c'est la joie de l'espérance qui est dans ce, donc à la fois dans ce pressentiment d'une vraie vie qui nous attend et dans le désir lui-même qui nous fait vivre, qui nous donne de l'élan, de la force. Et ce désir, il est le désir de notre cœur profond. Il n'y a pas de désir plus profond que l'espérance. Il se situe à un autre niveau que les désirs de la chair, pour parler le langage de saint Paul, c'est-à-dire un désir affectif, une passion amoureuse, tout ce qui fait vivre le monde, mais qui n'a pas la même profondeur. C'est un désir donc qui a une force qui est en définitive celle de l'Esprit Saint qui l'éveille en nous. C'est un désir divin, mais ce n'est pas un désir qui soit toujours pour autant sensible. On peut avoir une espérance profonde et forte sans nécessairement ressentir de grands désirs. Mais le signe que l'espérance est bien en nous, c'est qu'il y a une force intérieure qui est là et qui nous fait tout supporter. En fait, peut-être le signe le plus clair d'une véritable espérance, c'est la patience avec laquelle on traverse les épreuves. Qu'on reste tendu vers cette réalité invisible et qu'on a la force donc d'accepter de perdre le reste à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, dit saint Paul, j'ai accepté de tout perdre. Et la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, ça c'est la perception de la foi à travers une rencontre du Christ, j'ai accepté de tout perdre, c'est la force de l'espérance. Nous voyons cette joie de l'espérance apparaître aussi dans la parabole du semeur. Celui qui a été semé sur les endroits rocheux, c'est l'homme qui, entendant la parole dans saint Matthieu, c'est la parole du royaume, donc la bonne nouvelle du royaume, l'accueille aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment. Survienne une tribulation, une persécution à cause de la parole, aussitôt il succombe. Ici, on perçoit qu'il peut y avoir une première espérance, une première joie, dans une première découverte, dans une première conversion, et qui est encore fragile. En réalité, l'espérance en nous, elle a besoin de s'approfondir, même si au départ, dans l'expérience d'une conversion, on peut avoir l'impression que notre cœur est tout entier donné à Dieu et tourné vers Dieu. On s'aperçoit avec le temps que c'est pas si simple que ça. On peut avoir de grands élans, mais que malgré tout, notre cœur reste partagé. Il peut y avoir aussi des espérances, une espérance qui n'est pas si pure que ça. Je pense que, notamment au problème de l'idéalisme. Il y a des personnes qui sont dans un idéalisme chrétien, si je puis dire. Elles poursuivent un idéal de sainteté, par exemple, ou un idéal de service des autres, ou un idéal de justice, qui dans leur esprit se confond avec le royaume de Dieu, mais qui n'est pas en réalité la réalité concrète du royaume de Dieu, au sens où il manque une expérience intime du Christ. Et donc, en fait, c'est plutôt de grandes aspirations spirituelles qu'une véritable espérance naissant de la contemplation du visage, de la beauté du visage de Jésus. Alors, notamment avec l'adolescence, voyez, il peut y avoir des jeunes, et puis l'adolescence prolongée, il peut y avoir des jeunes comme ça qui se lancent avec beaucoup de générosité dans le service de Dieu et des autres. Je pense à une personne qui m'avait dit qu'elle n'avait pas pu rester dans la vie religieuse, et elle m'a dit qu'elle regrettait d'avoir dû renoncer à son idéal religieux. Et vous voyez l'ambiguïté du terme. On ne rentre pas dans la vie religieuse pour réaliser un idéal religieux. Ça, ce n'est pas l'espérance. Ça, c'est la recherche d'une perfection. L'espérance, c'est le désir de cette réalité qui est devenue concrète pour nous en Jésus-Christ, qui est le royaume de Dieu, dont on a fait une certaine expérience. Ce n'est pas la projection de soi dans une image, une perfection. Je pense aussi, vous voyez, je pense à ces nombreux prêtres qui, dans la tourmente des années 68, pris par l'idéalisme ambiant, mais un idéalisme politique surtout, se sont donnés pour le service des autres, notamment pour le service de la justice, en s'engageant. Pensons à tout ce qui s'est fait autour de la théologie de la libération. C'est pas dit qu'ils aient tous eu une véritable expérience du Christ et que ce soit vraiment la personne du Christ qui les attire. Et donc, quand il n'y a pas une espérance réelle et profonde qui naît d'une attraction, d'une réalité perçue avec les yeux de la foi, mais qu'on est plutôt dans un idéalisme religieux, spirituel, humaniste, ben on le reconnaît au fait que s'il n'y a pas la même force. Et beaucoup ont fini par lâcher en tout cas le ministère, le sacerdoce, le célibat. Question de force. Mais dans notre vie, on peut avoir à un moment une certaine expérience du Christ et puis tomber ensuite dans la poursuite plutôt d'un projet, d'un idéal, et s'éloigner insensiblement d'une véritable espérance. C'est là qu'il y a des pièges très profonds, surtout pour les personnes qui restent dans la tête, c'est-à-dire qui fonctionnent beaucoup avec de belles idées, de belles aspirations et de belles pensées qui les entretiennent. Mais l'espérance chrétienne, ce n'est pas de cet ordre-là. C'est « Puisse Dieu illuminer les yeux de votre cœur pour vous voir, faire voir quelle espérance vous ouvre son appel en la personne de Jésus-Christ. Contemplez. » Je pense aussi que, vous voyez, cette question de l'espérance comme vertu dynamique qui devrait être le moteur secret de toutes nos actions, rejoint la question du moralisme, parce qu'on peut avoir un idéal humaniste qui aboutit à une grande exigence morale, notamment dans le service des autres, mais sans qu'il y ait cette attraction du royaume qui s'exerce sur notre cœur. Et donc, on aboutit à quelque chose qui est facilement volontariste, sans qu'il y ait cette joie profonde du cœur qui caractérise l'espérance. Et cet élan, à la fois surnaturel et naturel, parce qu'il n'y a rien de plus naturel que ce désir surnaturel pour notre cœur, au sens où nous ne sommes pleinement dans, je veux dire, cet élan de l'espérance, c'est ce pourquoi nous sommes faits. C'est à la fois surnaturel et en même temps, on est pleinement nous-mêmes dans cet élan, puisque c'est tout notre être qui est fait pour Dieu. Tandis que quand on poursuit un idéal moral, des valeurs, des principes, on n'est pas à la hauteur de ce désir inscrit dans notre cœur. Et donc, on est obligé de faire beaucoup plus appel à la volonté, à des actes volontaires, sans jouir de la même force et du même élan. Donc il y a un combat autour de l'espérance, la nécessité d'une maturation, je dirais pas simplement d'une croissance, mais aussi quelque part d'une purification, qu'elle soit de plus en plus pure, de plus en plus un désir de Dieu et de Dieu seul. On peut à ce sujet se rappeler les paroles de l'Épître aux Hébreux: nous désirons seulement que chacun de vous montre le même zèle pour le plein épanouissement de l'espérance jusqu'à la fin, de sorte que vous ne deveniez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On devient nonchalant quand le désir s'attiédit, qu'on ne sait plus vraiment pourquoi, ou plutôt pour qui on vit. Et donc l'on cesse de courir vers le but en se laissant donc mouvoir par ce désir que l'Esprit Saint éveille en nous. Mais on sent bien qu'avec le passé, la générosité et l'élan naturel de la jeunesse, c'est évident que cette espérance peut être, abîmée de multiples manières. Parce qu'on se laisse prendre par les choses du monde, qu'on finit par s'installer dans ce monde. Et nous en reparlerons à propos de la nécessité des épreuves. Et donc je voudrais simplement ici souligner le fait qu'il y a une première joie qui est donnée, et ensuite, souvent un long temps d'épreuves, de combats, jusqu'à ce que l'espérance puisse vraiment parvenir à cette pureté qui correspond à la béatitude « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». C'est-à-dire que le cœur est tout entier tourné vers Dieu, sans partage. C'est ça le plein épanouissement de l'espérance. Et à ce moment-là, c'est une joie nouvelle, beaucoup plus profonde, qui est donnée à ceux qui sont allés jusqu'au bout de ce chemin, par la persévérance. Une joie très pure, que Dieu réserve au cœur pur. En fait, quand notre espérance parvient à son plein épanouissement, eh bien, il nous est donné, dans l'espérance, de voir Dieu. Ça correspond en même temps, voyez, à la comme une anticipation de la joie du ciel. Dieu donne pour autant qu'on espère. On est comme dans un temps de fiançailles, voyez. On attend de rentrer dans la salle des noces. On a un époux qui éprouve la vérité, la sincérité de notre désir, de notre amour. Et ça se joue sur le terrain de l'espérance. Vous voyez, on pourrait dire la même chose par rapport à la foi. C'est évident qu'il y a une perfection de la foi, comme il y a une perfection de l'espérance. Perfection de la foi et perfection de l'espérance qui sont évidemment liées à la perfection de la charité aussi. Tout ça, c'est inséparable. Saint Paul dit « la charité espère tout ». Et que cette perfection, elle correspond donc à l'entrée dans le royaume que nous désirons, même si nous ne pouvons pas en jouir totalement tant que nous ne jouissons pas de la claire vision qui ne sera donnée que par-delà le voile de la mort. Alors, je voudrais, dans le cadre de ce premier enseignement sur l'espérance, essayer simplement de souligner le premier lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance, pour parler comme Benoît XVI, qu'est la prière. Au quotidien, comment nous pouvons laisser grandir l'espérance dans notre cœur? Ne pas la laisser s'éteindre, essentiellement en restant fidèle à cet exercice du désir qu'est la prière. En vivant la prière, autrement dit, comme un exercice du désir. Dans la prière, l'espérance se nourrit et s'exprime tout à la fois. Je reprends les expressions du catéchisme. L'espérance se nourrit parce que elle croit avec l'exercice. Donc, que nous faisons dans la prière, nous réveillons, ce qu'on appelait réveiller notre espérance et à l'exercer dans des actes d'espérance. Si nous disons par exemple le psaume 62, « Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. » Si nous le disons dans un esprit de foi, en nous laissant toucher par les paroles que Dieu même, lui-même nous a données, pour que nous puissions prier comme il l'attend de nous, nous expérimentons que de fait, ces prières réveillent en nous l'espérance. Donc, c'est un exercice, la prière, qui est destiné à élargir notre cœur. Ici, je cite Benoît XVI, dans Spe Salvi, « L'homme a été créé pour une grande réalité, pour Dieu lui-même, pour être rempli de lui. Mais son cœur est trop étroit pour la grande réalité qui lui est assignée. » Vous voyez, c'est ça qui est un peu paradoxal. À la fois, l'Église nous dit que dans le cœur de l'homme est inscrit la soif de Dieu, et elle nous dit en même temps qu'il est trop étroit. Il a besoin de passer d'une soif inscrite en lui à un désir beaucoup plus grand que la soif, qui s'appelle l'espérance. Donc, son cœur est trop étroit pour la grande réalité qui lui est assignée, il doit être élargi. C'est ainsi que Dieu, en faisant attendre, élargit le désir. C'est là qu'il y a place pour le temps. Dieu, en faisant attendre, pour la persévérance, nous en reparlerons. Dieu, en faisant attendre, élargit le désir. En faisant désirer, il élargit l'âme. En l'élargissant, il augmente sa capacité de recevoir. Autrement dit, vous voyez, on reçoit de Dieu pour autant qu'on espère, comme dit saint Jean de la Croix, mais comme dit aussi l'Écriture, puisque saint Paul dit que l'espérance ne déçoit point. Augustin renvoie à saint Paul, qui dit lui-même qu'il vit tendu vers les choses qui doivent venir. Il utilisait une très belle image, continue Benoît XVI, pour décrire ce processus d'élargissement et de préparation du cœur humain. Donc, la prière devient le premier lieu, en même temps, du combat de l'espérance, au sens où nous sommes appelés à exercer l'espérance dans la prière et à passer d'une prière qui serait, disons, charnelle, à une prière spirituelle, au sens d'une prière tournée vers le royaume. Nos prières pouvant être, simplement l'expression de nos attentes humaines présentées à Dieu, sans que notre cœur se tourne d'abord vers Dieu. Rappelez-vous ce que dit saint Jacques, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. » Alors ça vaut la peine de s'arrêter un petit peu, de se dire qu'est-ce que ça veut dire demander mal. Afin de dépenser pour vos passions, ça veut dire ne pas purifier et convertir nos petits espoirs humains en les vivant à l'intérieur de la grande espérance. Ça rejoint ce que j'avais dit la dernière fois sur nos projets, mettre Dieu au service de nos projets, de nos désirs, au lieu de nous mettre d'abord nous-mêmes au service des désirs de Dieu. Mais ici, voyez, mettre nos petits espoirs, les vivre à l'intérieur de la grande espérance, c'est aussi avoir ce regard de sagesse qui fait que l'on voit nos attentes humaines dans la lumière de l'attente la plus profonde de notre cœur, c'est-à-dire que progressivement, on arrive à discerner les demandes qui sont ajustées au royaume de Dieu, les demandes qui ne le sont pas. En fait, on a besoin de la lumière de l'Esprit-Saint pour faire ce discernement. Mais si, quand bien même on ne serait pas sûr que telle ou telle demande concrète soit dans la ligne du royaume de Dieu, si je puis dire, si notre prière est animée par l'espérance, à ce moment-là, elle reste humble, c'est-à-dire que au lieu de demander à Dieu telle chose, on présente la chose, on présente les situations. Rappelez-vous ce que dit saint Paul, hein, en Romains 8, nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Et dans beaucoup de situations, on n'a pas d'inspiration particulière. On ne sait pas vraiment ce que Dieu désire par rapport à telle ou telle difficulté. Je prends l'exemple de la maladie. Quand l'Église donne le sacrement des malades, elle prie d'une manière spirituelle, c'est-à-dire dans l'espérance. Elle prie, comme dit le catéchisme, afin que le malade recouvre sa santé si cela est convenable à son salut. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alors voyez dans quel sens nos espoirs humains ont besoin d'être purifiés, c'est-à-dire relativisés par rapport à l'unique nécessaire qui est le royaume de Dieu. Et c'est bien ce à quoi Jésus nous éduque dans notre Père, puisqu'il nous fait demander d'abord que le règne de Dieu vienne, que sa volonté soit faite. Et en même temps, et Benoît XVI le souligne, En même temps, il nous fait demander notre pain de ce jour. Le Seigneur, dit Benoît XVI, qui dirige notre regard vers l'essentiel, vers l'unique nécessaire, tient aussi compte de nos besoins terrestres et les reconnaît. Lui qui dit à ses disciples « Ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture », nous invite cependant à prier pour notre nourriture et à transférer notre souci sur Dieu. C'est vrai que c'est une question disputée, par exemple saint Augustin dans son commentaire du Sermon sur la montagne, lui il tient la position suivante, il dit « Le Seigneur nous demande de chercher le royaume de Dieu et seulement le royaume de Dieu, et le reste de toute façon est donné par surcroît, donc on n'a pas besoin de le demander ». Et donc, il interprète le demandez-nous, donnez-nous notre pain de ce jour comme étant donnez-nous la parole dont nous avons besoin pour vivre. Mais c'est pas vraiment le sens de la tradition, vous voyez. Parce que ce que dit Benoît XVI dans son commentaire rejoint évidemment toute une tradition. Et je vous cite à ce sujet-là aussi le catéchisme, qui dit que tout besoin peut devenir objet de demande. C'est dans cette assurance que Jacques et Paul nous exhortent à prier en toute occasion. Je dis ça parce qu'au fond, Dieu aime nos demandes, parce qu'elles sont l'expression de notre confiance, de notre foi, du moment qu'elles sont spirituelles, c'est-à-dire relativisées au royaume de Dieu. Donc on rejoint aussi la prière de Jésus dont j'avais déjà parlé à Gethsémani. Père, si c'est possible, que cette coupe passe loin de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et ici, dans l'espérance, vous voyez, en tant que la prière est animée, pas simplement par un esprit d'abandon total à Dieu, mais aussi animée par l'espérance, Père, si cela est utile au royaume de Dieu. Si cela peut servir au salut des âmes. Je te demande telle chose. Repris à l'intérieur de l'unique nécessaire. Mais pour reprendre la thèse de saint Augustin dans son commentaire, c'est un commentaire de jeunesse, il a peut-être évolué ensuite, parce que c'est vraiment ses tout premiers écrits, ce commentaire sur le sermon sur la montagne. C'est vrai que quand on, dans la prière, quand on ne pense qu'à Dieu et qu'on a le cœur tourné uniquement vers lui comme s'il n'y avait plus que Dieu au monde, on fait l'expérience que Dieu s'occupe de nos affaires temporelles sans qu'on ait nécessairement besoin de lui demander. Mais vous voyez, sur ce terrain, vous pouvez vous sentir libre. Moi, j'inviterai plutôt à suivre ce que l'Église actuellement nous enseigne, c'est-à-dire à profiter de tous nos besoins humains pour revenir à la prière. En repensant notamment ici à la parole du curé d'Ars, l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Et que nous vivions cette dépendance à Dieu dans les petites choses, c'est une bonne manière de grandir dans la foi. Et aussi dans l'espérance, dans la mesure où ces petites choses, nous les relativisons intérieurement en redisant à Dieu que nous ne désirons qu'une chose, c'est son royaume. Je soulignerai aussi, voyez que dans la prière, les choses se décantent. Et notamment, nous pouvons, par la prière, arriver donc à lâcher de faux espoirs. Des faux espoirs qui, en réalité, nous éloignent de Dieu. des faux projets ou des faux espoirs. Des fois, c'est même pas des projets, mais on imagine qu'un jour, on pourra. Et en fait, à garder des faux espoirs dans notre cœur, on abîme l'espérance en nous. Et on peut sentir dans la prière que ça ne va pas dans le même sens que le désir du royaume, qu'il y a un deuil à faire. Donc, l'exercice de la prière, premier lieu essentiel de l'apprentissage de l'espérance. En même temps, nous percevons que cet exercice de la prière est lié à un travail de détachement, de désencombrement de notre cœur. Et ici, nous pouvons revenir à nouveau à la parabole du semeur, mais cette fois-ci en nous arrêtant sur ceux qui ont été semés dans les épines. C'est celui qui entend la parole, dit saint Matthieu, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent cette parole qui demeure sans fruit. Ici, le souci du monde, la séduction de la richesse, dans saint Luc, ce sont les convoitises. Il y a aussi la séduction de la richesse et les autres convoitises. Et cela rejoint aussi l'avertissement du Christ dans l'évangile de saint Luc, quand il dit: prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie. Veillez donc et priez en tout temps. C'est-à-dire que la vigilance dans l'espérance, la vigilance dans la prière, elle suppose que nous sachions cultiver un certain détachement, une certaine sobriété par rapport à tout ce qui est objet de jouissance dans le monde, tout ce qui pourrait séduire notre cœur. Comprenez bien ici que ce n'est pas la jouissance elle-même des choses du monde qui pourrait gêner l'espérance, mais c'est le fait que notre cœur se laisse prendre par ça. Si tu jouis du monde, n'y mets pas ton cœur. Le psaume dit: si tu amasses des richesses, n'y mets pas ton cœur. Mais on pourrait dire aussi bien: si tu jouis des choses de ce monde, n'y mets pas ton cœur. Dans le même sens, saint Paul dit que ceux qui ont femme vivent comme s'ils n'en avaient pas, que ceux qui achètent vivent comme s'ils ne possédaient pas, que ceux qui usent de ce monde vivent comme s'ils n'en usaient pas. Et donc, l'espérance n'est pas séparable d'une ascèse qui protège notre cœur de l'emprise des convoitises. Et qui donc l'empêche de tomber dans ce que décrit la parabole du semeur, c'est-à-dire dans une forme d'étouffement. Dans la version de saint Matthieu, c'est la parole qui est étouffée, c'est-à-dire notre cœur ne perçoit plus la beauté du royaume. Il perd, comme dit Benoît XVI, le goût de Dieu. À se complaire, vous voyez, dans une jouissance humaine, eh bien, si on s'attache à cette jouissance, c'est évident que l'espérance en nous est attiédie et que même notre perception, notre capacité de percevoir le royaume, elle-même touchée. Écoutez Benoît XVI, comment se fait-il que l'homme ne veuille même pas goûter Dieu, qu'il puisse être comme indifférent à Dieu, lorsque l'homme est occupé entièrement par son monde, par les choses matérielles, par ce qu'il peut faire, par tout ce qu'il peut réaliser pour connaître le succès, par tout ce qu'il peut produire ou comprendre, alors sa capacité de perception à l'égard de Dieu s'affaiblit. L'organe qui perçoit Dieu dépérit, devient incapable de percevoir et insensible. J'avais dit au début que l'espérance, elle est liée à un pressentiment, à une certaine expérience du royaume de Dieu. Mais le malin fait tout pour que, progressivement, au fur et à mesure que nous installons un peu dans la vie, nous installons dans le monde, nous prenons nos aises, on s'embourgeoise, comme on dit, et on finit par perdre le goût de Dieu. Ni vu ni connu. Il n'en faut pas plus. Après, on va continuer à prendre des temps de prière, mais on s'étonne de ne rien se ressentir dans la prière. Là, évidemment, parce que comment peut-on à la fois être tendu vers Dieu et en même temps s'installer dans les jouissances du monde? Encore une fois, ce n'est pas la jouissance elle-même qui est gênante, mais le fait de s'installer dedans. De faire sa vie, quoi. De se faire une. De se modeler un petit bonheur. De prendre. Je dirais. Oui, de prendre ses aises dans ce monde, de telle manière qu'on ne s'y sente pas si mal que ça. Et qu'on laisse donc s'éteindre en nous ce gémissement de l'âme qu'est l'espérance, c'est-à-dire un désir ardent, avec toujours comme une sorte de souffrance intérieure, du fait que la vraie vie ne nous est pas encore donnée, que nous aspirons. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Comment peut-on dire cela si on se laisse aller à une recherche de jouissance immédiate, sans modération, sans mettre un frein, sans garder une ceinture au rein? Je dis ça, c'est parce qu'il y a des personnes qui se font un peu illusion. Elles profitent de la vie, comme on dit, sans aucune préoccupation d'ascèse, de sobriété. Et ensuite, quand elles prient et qu'elles se sentent arides, elles disent qu'elles vivent des nuits. Non, elles ne vivent pas des nuits. Elles vivent un cœur endormi. Elles vivent la tiédeur. Elles vivent la perte du goût de Dieu. La prière et le renoncement, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à tous ses biens. La prière et le détachement, la prière et la sobriété, soyez sobre en vue de la prière, dit saint Pierre. C'est tout un. C'est-à-dire, en définitive, si on regarde les choses sous l'angle de l'espérance, espérer le royaume de Dieu comme l'unique nécessaire, comme notre vrai bonheur, ça veut dire, je le disais avant, relativiser, et se relativiser tout le reste par rapport au royaume de Dieu, ça s'appelle le détachement. Et donc, si on ne veut pas suivre un chemin de détachement, qui nécessairement comprend des actes de renoncement concrets, bien forcément on va stagner dans la vie de prière. Non seulement stagner, mais on va plutôt reculer, parce que celui qui n'avance pas dans la vie spirituelle recule. Et je pense, vous voyez que c'est un terrain sur lequel on se fait un petit peu actuellement piéger, parce qu'on a tellement des mémoires négatives par rapport à une forme d'ascétisme teinté de jansénisme qu'on n'ose plus appeler à l'ascèse, alors qu'en fait cette ascèse peut prendre une forme légère en étant vécue comme sobriété. Je crois que c'est le terme qui convient le mieux pour nous, c'est-à-dire ne pas dépasser nos besoins réels. C'est nos besoins que Dieu veut satisfaire. C'est pas nos recherches d'une sorte de voilà d'ivresse hein, dans la jouissance vécue d'une manière immodérée. Prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans la débauche, l'ivronnerie, l'ivresse et les soucis de la vie. Je terminerai simplement en soulignant, vous voyez que ici, l'ivresse, c'est peut-être l'ivresse aussi du travail, l'ivresse de l'activité dans laquelle on peut mettre aussi son cœur, une sorte d'état d'excitation, vous voyez, dans l'action, qui fait que on vit un stress continu, mais en fait on aime ce stress, on a besoin, ça donne un sentiment de vie. Et cette excitation qui peut être à certains moments même joyeuse, hein, une sorte d'élan, comme ça, on aime son travail. C'est pas le problème qu'on aime son travail, le problème c'est qu'on y mette son cœur. Et Benoît XVI n'a pas eu peur de dire qu'il y avait une idolâtrie du travail. Idolâtrie du travail. Et ça, ça rejoint la question évidemment des soucis du monde, hein, mais ça c'est quelque chose qui est un puissant obstacle à la prière. On a vécu toute la journée dans cet état de stress, d'excitation, dans lequel on peut se complaire, comme ça. Hein. Et on va se poser 5 minutes pour faire son temps de prière. Qu'est-ce que vous voulez que le cœur vive ? Bon, à moins de reconnaître sa faute et de rentrer dans une attitude d'humilité, mais sinon, essayer de caser Dieu dans l'intérieur d'une vie comme ça, trépidante, sans modération, sans sobriété dans l'action, sans recul, en se laissant prendre par les choses, les soucis et l'action elle-même, bien c'est incompatible. À ce moment-là, au bout d'un certain temps, évidemment, on finit par lâcher totalement la vie de prière parce qu'on ne voit pas comment la concilier avec la vie tout court. L'activisme et l'espérance, ça ne fait pas bon ménage. C'est peut-être un piège plus subtil que la recherche de jouissance immédiate. Donc, Jésus nous met en garde aussi. Nous confions à sa miséricorde. Pendant ce temps de l'Avent, nous ne sommes plus particulièrement appelés à grandir dans l'espérance.